Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très très importante série concernant la rédemption, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Nous arrivons à l'étude numéro 16 et c'est la deuxième partie de l'acquisition de la rédemption. Au sujet du ministère public de Christ, j'observerai ce qui suit. Primo, le précurseur de Christ, dans son apparition pour son ministère public, a été Jean-Baptiste. Il est venu pour prêcher la repentance en rémission des péchés, pour préparer la venue de Christ, conformément aux prophéties à son sujet. Jean-Baptiste commença son ministère environ 3 ans et demi avant Christ, de sorte que le ministère de Jean le Baptiste et celui de Christ mis ensemble, ça fait environ 7 années, ce qui fut la dernière des semaines de Daniel. Et il confirmera l'alliance à plusieurs dans une semaine, nous est-il dit dans Daniel, chapitre 9, verset 27. Je répète, et il confirmera l'alliance à plusieurs dans une semaine. Christ est venu au milieu de cette semaine d'année, comme Daniel l'avait prédit. Et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice de l'oblation. Le ministère de Jean-Baptiste était destiné à réveiller les hommes et à les convaincre de pécher, à les préparer pour la venue de Christ et à les encourager. Une effusion très remarquable du Saint-Esprit de Dieu accompagna le ministère de Jean, et l'effet en fut tel que tout le pays de Judée et les habitants de Jérusalem allaient vers lui, et ils étaient tous baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés. Vous pouvez avoir la confirmation par Saint Marc chapitre 1 verset 5. Jean-Baptiste fut donc le plus grand de tous les prophètes qui sont venus avant Christ. Entre ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Jean-Baptiste, c'est-à-dire il a eu la charge la plus honorable. Jean-Baptiste fut comme l'étoile du matin qui annonce le jour qui s'approche et le lever du soleil. Les autres prophètes étaient des étoiles brillantes dans les ténèbres, mais ces étoiles ont disparu à l'approche du jour de l'Évangile. Et la venue de Christ étant maintenant très rapprochée, l'étoile du matin la précède, la plus brillante de toutes les étoiles comme Jean-Baptiste était, dans le sens que nous venons d'indiquer, oui, le plus grand de tous les prophètes. Et lorsque Christ a commencé son ministère public, l'éclat de cette étoile du matin est allé aussi en diminuant, de même que quand le soleil se lève, nous voyons diminuer l'éclat de l'étoile du matin. Ainsi Jean-Baptiste dit du reste de lui-même ceci: il faut que je croisse, il faut que Jésus-Christ croisse et que moi, Jean-Baptiste, je diminue. Je répète pour que ce soit bien compris. Il faut que Jésus-Christ croisse et que moi je diminue. Et bientôt après que Christ a commencé son ministère public, Jean-Baptiste a été mis à mort. Ainsi, l'étoile du matin est visible pendant un peu de temps après le lever du soleil, mais elle disparaît bientôt. Secondo, Christ commença son ministère public par son baptême, qui fut bientôt suivi de la tentation dans le désert. Son baptême fut, en quelque sorte, l'inauguration solennelle par laquelle il est entré dans son ministère. Il fut ensuite oint du Saint-Esprit d'une manière solennelle et visible. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme visible, semblable à une colombe, et une voix s'est fait entendre du ciel qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir. » Après cela, il fut conduit dans le désert par le diable. Satan se livra à une violente attaque contre lui au moment où il commença son œuvre. Son obéissance fut donc mise à une épreuve remarquable, mais il remporta la victoire. Alléluia. Celui qui avait si bien réussi avec le premier Adam a totalement échoué au second Adam. Et tierso, nous avons l'œuvre dans laquelle Christ a été engagé durant son ministère. Et ici, il y a trois choses qu'il faut surtout remarquer: savoir sa prédication, ses miracles, la vocation des disciples pour en faire les ministres de son royaume. Et tout d'abord, nous avons donc dit, nous avons la prédication de l'Évangile. Et c'est en cela que consista une grande partie de son œuvre dans son ministère public, et beaucoup de cette obéissance par laquelle il acquit le salut pour nous, consista à prêcher les choses que le Père lui avait commandées. Il révéla plus clairement et plus complètement l'intention et la volonté de Dieu que cela n'avait jamais été fait auparavant. Il est venu du sein du Père, connaissant parfaitement sa volonté et se trouvant dans la meilleure position pour la révéler. De même que le soleil aussitôt se lève et commence à briller, de même Christ aussitôt qu'il entra dans son ministère public, commença à éclairer le monde au moyen de sa doctrine. La loi avait été donnée sur le mont Sinaï, Christ aussi exposa sa doctrine évangélique, pleine de bénédictions et non de malédictions, à toute la multitude sur une montagne. Notez et vérifiez Saint Matthieu, chapitre 5, verset 7. Quand il prêchait, il n'enseignait pas comme les scribes, mais comme quelqu'un ayant autorité, de sorte que ses auditeurs étaient étonnés de sa doctrine. Il ne révéla pas les intentions et la volonté de Dieu dans le style des prophètes, en disant « Ainsi dit l'Éternel », mais dans un style comme celui-ci, « Moi, je vous dis en vérité, et il donna ses doctrines non seulement comme celles de Dieu son Père, mais comme les siennes propres à lui. Il donna donc des commandements en les présentant non seulement ainsi que les prophètes avaient l'habitude de le faire, comme ceux de Dieu, mais comme étant les siens. Et c'est ici mon commandement, dit-il. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Une autre chose dont Christ s'occupe pendant son ministère, ce fut de faire des miracles. Nous remarquerons à ce sujet plusieurs choses. Leur grand nombre. Et outre les cas particuliers, il est souvent parlé de multitudes qui venaient vers lui avec leur maladie et qui étaient guéris. Ils étaient donc tous des œuvres de miséricorde. Il manifestait non seulement son pouvoir infini et sa grandeur, mais également sa miséricorde et sa bonté infinie. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, rendant la vue aux aveugles, rendant l'ouïe aux sourds et l'usage de leurs membres aux paralytiques et aux boiteux, nourrissant les affamés, nettoyant les lépreux et ressuscitant les morts. La plupart de ces miracles étaient de ceux qui, dans l'Ancien Testament, avaient été représentés comme étant l'œuvre particulière de Dieu le Père. De ce nombre était l'apaisement de la tempête. Il arrête la tourmente, la changeant en calme, et les ondes sont calmées. Psaume 107, verset 29. Sa marche sur la mer pendant un orage, c'est lui seul qui étend les cieux, qui marche sur les hauteurs de la mer. Job, chapitre 9, verset 8. L'expulsion des démons. Tu as brisé les têtes du Léviathan. Psaume, chapitre 74, 74, verset 14. Ce fut le cas aussi du rassasiement de la multitude dans un désert. « Qui te donne à manger, est-il dit, dans ce désert ? Qui te donne la manne ?» Deutéronome, chapitre 8, verset 16. Il découvrit aussi les pensées des hommes, car voici celui qui déclare à l'homme quelle est sa pensée, l'Éternel, le Dieu des armées, et son nom. Amos, chapitre 4, verset 13. Il ressuscita les morts. Les issues de la mort sont à l'Éternel, le Seigneur. Psaume 68, verset 20. Il en fut de même quand il ouvrit les yeux des aveugles. L'Éternel ouvre les yeux aux aveugles. Psaume 146, verset 8. Quand il guérit les malades, c'est lui qui guérit toutes tes infirmités, nous est-il dit dans le psaume 103, verset 3, et éleva ceux qui étaient abaissés, et l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Psaume 146, verset 8. Ils étaient en général une image de la grande œuvre qu'il était venu accomplir dans le cœur de l'homme. Il représentait cette purification spirituelle intérieure, cette rénovation et résurrection qui devait accomplir chez tous les rachetés. Il les accomplit par son propre pouvoir et non comme les autres prophètes. Ils avaient l'habitude de faire tous leurs miracles au nom de l'Éternel. Mais Jésus-Christ, il les accomplit en son propre nom. L'entrée de Canaan fut défendue à Moïse parce que par sa manière de parler, il a eu un peu l'air de s'attribuer à lui-même l'honneur d'avoir accompli un miracle. Jésus dit « Je le veux, sois guéri » Saint Matthieu chapitre 8 verset 3. Et il ajoute ailleurs, dans le même sens, croyez-vous que je puisse faire ce que vous me demandez? Saint Matthieu chapitre 9 verset 28. Une autre chose que Christ a fait pendant le cours de son ministère, ce fut le choix de ses disciples. Il appela plusieurs disciples qu'il employa comme évangélistes. Il en envoya à l'œuvre 70 une fois, mais il y en a eu 12 de mis à part pour être apôtres, comme étant les principaux ministres de son royaume et en quelque sorte les 12 fondements de son Église. Apocalypse chapitre 21, verset 14. Ceux-ci furent les principaux instruments pour établir son royaume dans le monde. Aussi seront-ils assis sur 12 trônes jugeant les 12 tribus d'Israël. Je ferai remarquer comment il termina son ministère. Ce fut en donnant ses derniers conseils à ses disciples et à tous ceux qui le deviendraient. Ils nous ont été conservés particulièrement dans les 14e, 15e et 16e chapitres de l'Évangile selon saint Jean. Il institua aussi un monument solennel de sa mort. C'est la Sainte Cène dans laquelle nous avons une représentation de son corps rompu et de son sang versé. Il s'offrit lui-même en sacrifice à Dieu dans ses dernières souffrances en qualité de souverain sacrificateur de Dieu. Il accomplit cet acte en qualité de ministre de Dieu et de sacrificateur oint de Dieu. Ce fut le plus grand acte de son ministère public et de son obéissance par lequel il a acquis le ciel pour les croyants. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament faisaient beaucoup de choses en qualité de ministres de Dieu, mais leur plus grande fonction était d'offrir des sacrifices à l'autel. De même, la plus grande chose que Christ a accomplie dans l'exercice de ses fonctions de sacrificateur est la plus grande de toutes celles qu'il a faites jamais et qui fut jamais faite, ce fut l'offrande qu'il a faite de lui-même. Il s'est offert lui-même à son Dieu, à son Père. Et en cela, il fut l'antitype de tout ce qui avait été fait par les sacrificateurs dans leurs sacrifices et dans leurs offrandes depuis le commencement du monde. Nous avons encore à considérer, dans le rachat de la rédemption, les vertus que Jésus-Christ a mis en évidence et manifesta. Il y a, à la vérité, certaines vertus particulières que les hommes pensent avoir et qui ne se trouve pas en Christ, non pas qu'il manquait de quelque vertu, mais tout simplement parce que sa vertu était parfaite à tous les égards. De ce nombre sont la repentance. Le cœur brisé à cause du péché, ainsi que la renonciation à la convoitise. Or Jésus-Christ n'avait pas de péché, donc il n'avait pas à se repentir, ni aucune convoitise à laquelle il a dû renoncer. Mais toutes les vertus qui n'impliquent pas le péché se sont trouvées en lui à un plus haut degré que chez aucune créature. Chaque vertu en lui fut absolument parfaite. La vertu en elle-même fut bien plus grande chez lui que chez personne d'autre, et elle pouvait paraître beaucoup plus avantageuse chez lui que chez qui que ce soit. Plus la vraie vertu est éprouvée, mieux elle paraît. Or, aucune vertu n'a été soumise à d'aussi grandes épreuves que celle de Jésus-Christ. On peut diviser en trois classes les vertus que Jésus-Christ a déployées dans son œuvre, suivant qu'elles concernent plus immédiatement Dieu, Christ lui-même, ou y compris les hommes. Primo, nous avons les vertus qui se rapportent plus immédiatement à Dieu. Il y a eu en lui une sainte crainte et du respect envers Dieu le Père. La vertu de Christ fut à cet égard mise à une plus grande épreuve que celle d'aucun autre être, par suite de la dignité et de sa personne. Les anges ont cédé à la tentation de renoncer au culte de Dieu et au respect qui lui était dû, parce qu'ils étaient eux-mêmes des êtres très distingués. Mais Christ était infiniment plus digne d'honneur que les anges, car il était le Fils éternel du Père, et sa personne était égale à celle du Père. Et toutefois, après s'être chargé des fonctions de médiateur et avoir pris sur lui la nature humaine, il fut plein de respect pour Dieu, son Père, et il manifesta un grand amour pour Dieu le Père. Les anges donnent une grande preuve de leur amour de Dieu par leur constante promptitude à faire sa volonté, et plusieurs saints ont donné de grandes preuves de leur amour pour Dieu en endurant des souffrances et de grandes peines, mais personne n'a donné jamais une aussi grande preuve d'amour pour Dieu que Jésus-Christ lui-même. Personne n'a accompli jamais une œuvre d'amour comme la sienne, ni n'a souffert autant par amour pour Dieu. Il montra la soumission la plus admirable à la volonté de Dieu. La soumission de personne ne fut jamais si éprouvée que la sienne, et il manifesta le plus admirable esprit d'obéissance. Secondo, dans cette œuvre, il manifesta les vertus qui le concernait lui-même plus immédiatement, comme l'humilité, la patience et le mépris du monde. Bien que Christ fût éminemment excellent et honorable, il fut pourtant le plus humble de toutes les créatures. Aucun ange, ni aucun homme, ne l'égale jamais en humilité, bien qu'il fût le plus grand en dignité et en honneur. Christ aurait été exposé à tomber dans l'orgueil si quelque chose avait pu le tenter. les anges qui sont tombés. Rappelez-vous, vous qui avez peut-être étudié d'une façon sérieuse les Saintes Écritures, les anges qui sont tombés furent tentés par la dignité de leur nature et par les circonstances honorables dans lesquelles ils se trouvaient placés. Mais Jésus-Christ était infiniment plus élevé qu'eux. La nature humaine de Christ fut honorée au point de coexister avec le Fils éternel de Dieu qui était l'égal du Père. Et toutefois, cette nature humaine ne s'enfla pas d'orgueil. Et l'homme Jésus-Christ ne s'enflamma nullement d'orgueil, malgré toutes les œuvres admirables qu'il a accomplies, la guérison des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques et la résurrection des morts. Et bien qu'il sût, qu'il a su que Dieu l'avait établi pour être roi dans les cieux et sur la terre, sur les anges et sur les hommes, comme il le dit dans Saint Matthieu chapitre 11 verset 27, que toutes choses m'ont été accordées par mon Père. Saint Matthieu 11, verset 27. Bien qu'il se connût comme un être infiniment honorable et qu'il n'a eu point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu, et bien qu'il a su qu'il était l'héritier du royaume du Père, malgré tout cela, son humilité était si grande qu'il ne dédaigna pas d'être placé dans des circonstances plus humbles et d'être soumis à des souffrances plus grandes que ne le furent jamais celles d'aucune créature élue, de sorte qu'il est devenu le dernier et le plus humble de tous. L'épreuve est la preuve que l'humilité consiste en ceci, que quand on y est appelé, on s'abaisse et on se soumet à des actes très humbles qui impliquent un grand abaissement. Mais personne ne s'abaissa jamais aussi bas que Christ. Si nous considérons soit l'infinie hauteur dont il descendit, soit la profondeur à laquelle il s'abaissa, eh bien son humilité fut si grande que bien qu'il se sentait digne d'être honoré 10 000 fois plus que les plus grands princes de la terre ou que les anges du ciel, toutefois il ne crut pas quand il fut appelé que ce fut trop d'être lié comme un malfaiteur, de devenir un objet de raillerie pour les plus vils des hommes, d'être couronné d'épines, d'être revêtu d'une robe par raillerie et d'être crucifié comme un esclave et un malfaiteur, comme un des plus bas et des plus méchants des hommes, comme un ennemi de Dieu et des hommes, comme un être indigne de vivre. Et cela, il l'a fait, non pour lui-même, mais dans l'intérêt des plus vils d'entre les créatures, dans l'intérêt même de quelques-uns de ces misérables qui l'ont crucifié. Ne manifeste-t-il pas une humilité surprenante en se soumettant librement et volontairement à un tel abaissement? Et combien sa patience éclata au milieu des terribles souffrances qu'il a eu à endurer lorsqu'il a gardé le silence et n'a ouvert pas sa bouche, mais il est allé comme un agneau à la boucherie. Et quel mépris de la gloire de ce monde il a manifesté lorsqu'il a fait choix de cet abaissement et de ses souffrances plutôt que d'être revêtu de toute la gloire extérieure d'un prince de la terre que les multitudes ont voulu souvent lui imposées. Et tierso, Christ exerça d'une manière admirable ses vertus qui se rapportent plus immédiatement aux autres hommes. On peut les résumer en deux: débonnaireté et amour. La débonnaireté de Christ fut son humble calme, son calme d'esprit au milieu des provocations qu'il rencontra. La grandeur d'une provocation consiste en deux choses: le degré d'opposition qui produit la provocation et le degré d'arbitraire de cette opposition, soit qu'elle ait lieu sans cause, soit que tout porte à supposer qu'il devrait en être autrement. Or, si nous considérons ces deux choses, personne ne rencontra jamais de provocation comme celle de Christ pendant son séjour sur cette terre. Comme il fut haï, quelles injures il a eu à supporter de la part des plus vils des hommes. Combien grandes furent ses souffrances, et qu'ils furent méchants et méprisables en le maltraitant ainsi. Combien déplacés et arbitraires étaient ses mauvais traitements, qu'il était loin de les mériter. Bien au contraire, combien il avait droit à de l'amour, à du respect, à de bons traitements de leur part. Eh bien, si nous réfléchissons à toutes ces choses, aucun homme ne fut jamais en but à un millième des provocations que Christ a rencontrées de la part des hommes. Et pourtant, de quelle douceur n'a-t-il pas fait preuve dans toutes ces circonstances? Combien calme et composé fut son esprit, qu'il fut loin d'être agité et troublé. Lorsqu'il fut insulté, il ne rendit point injure pour injure. De même qu'une brebis est muette devant celui qui la tond, ainsi il n'ouvrit pas la bouche. Il n'y eut pas la moindre apparence d'un esprit de vengeance, bien au contraire. De quel esprit de pardon n'a-t-il pas fait preuve? Si bien qu'il a pu demander avec ferveur leur pardon, alors qu'il le provoquait au plus haut degré et qu'il le clouait à la croix. Il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas du tout ce qu'ils font. » Oh oui, jamais on a eu un pareil exemple d'amour des hommes. L'amour de Christ pour les hommes, qui se manifeste au plus haut degré au milieu de ses dernières souffrances, alors qu'il livre sa vie et son âme, et sans comparaison. Il y a eu des manifestations d'amour bien remarquables chez quelques-uns des saints, et même des apôtres tels que Paul, Jean, et les autres. Mais l'amour des hommes dont Christ a fait preuve pendant qu'il était sur la terre, elle ne peut pas plus être comparée à celui des autres hommes que l'océan peut être comparé à un petit ruisseau. Pour terminer cette étude pour aujourd'hui, nous devons remarquer, chers amis, que toutes les vertus qui sont apparues en Jésus-Christ ont brillé d'un plus vif éclat vers la fin de sa vie, au milieu des épreuves qu'il a rencontrées. Et c'est surtout dans le fourneau que l'or pur peut montrer sa pureté. Ce fut surtout au milieu de ses souffrances que Jésus-Christ a eu à endurer vers la fin de sa vie, que se manifestèrent son amour de Dieu, le respect de sa majesté et de sa loi, son esprit d'obéissance, son humilité, son mépris du monde, sa patience, sa douceur et sa disposition miséricordieuse. Au fait, tout ce que Jésus-Christ a accompli pour notre rédemption a apparu surtout vers la fin de sa vie. Et c'est alors qu'il a fait satisfaction pour le péché, qu'il a mérité la vie éternelle pour les pécheurs que nous sommes, et qu'il a exposé dans tout son éclat cet exemple qu'il nous a laissé pour que nous puissions imiter Jésus-Christ. Ainsi, nous avons un aperçu des choses par lesquelles le rachat a eu lieu pour ce qui est de la justice qu'elle servir à manifester. Chers amis, demain, Dieu voulant, dans notre étude numéro 16, la troisième partie, nous verrons les souffrances et l'humiliation de Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, nous allons donc terminer par la prière. Mais j'ai reçu dans mon cœur de vous transmettre quelque chose pour votre encouragement personnel et aussi pour votre édification. Écoutez bien. Le Seigneur règle mes allées et venues. Il faut d'abord et en tout rechercher la direction divine. Mais précisons, il s'agit que l'ordre voulu de Dieu règne dans votre vie, à votre foyer et dans toutes vos affaires. Oui, l'ordre véritable en tout. Pour qu'il en soit ainsi, vous rechercherez d'abord l'ordre au niveau de l'esprit, le calme parfait qu'on ne trouve que auprès du Seigneur et dans son lieu secret. Il en résulte une pensée bien ordonnée, parce qu'elle émane d'un esprit un avec le Saint-Esprit, caractérisé par une saine appréciation des choses et un saint équilibre. Alors en vérité, l'ordre qui règne en vous tend à se manifester autour de vous. Vous n'entreprenez plus rien sans prière, sans que cela prenne à vos yeux l'aspect d'une mission divine, et vous l'accomplissez sans hâte fébrile, le cœur à l'aise et plein de joie. Il est dit dans Saint Jean chapitre 4, verset 36, « Le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Ne voyez-vous pas que si vous moissonnez sans discernement, oublieux du travail déjà fourni dans le passé, vous frustrerez le sèmeur de la joie qu'il éprouvait en pensant à cette moisson future. Ceux qui nous ont précédés ont œuvré pour nous, quand par la qualité de notre vie et les mobiles qui nous font agir, nous moissonnons indignement sur leur semaille, nous les frustrons de leur travail et de leur espérance. Assimilez-vous bien à cette vérité. Nombreux sont les serviteurs et les servantes du Seigneur qui, dans toutes sortes de sphères d'activité, ont assuré les semailles de la parole, de l'exemple ou de l'aide fraternelle au bénéfice desquels vous êtes aujourd'hui. C'est un dépôt sacré. Il s'agit donc d'en faire le meilleur usage possible. Et maintenant, nous allons prier ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, ta main n'est pas raccourcie pour ne pouvoir plus délivrer. Ton oreille n'est pas devenue pesante pour ne plus pouvoir entendre. Mais ce sont nos iniquités qui ont fait séparation entre nous et toi, ô notre Dieu, et ce sont nos péchés qui ont fait que tu as caché ta face de nous. Nos lèvres ont proféré le mensonge et notre langue a dit des choses perverses. Il n'y a personne qui crie pour la justice, il n'y a personne qui juge pour la vérité. On se fie en des choses de néant et l'on dit des choses vaines. On conçoit le travail et l'on enfante le tourment. Nous ne connaissons point le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans nos voies. C'est pourquoi le jugement s'est éloigné de nous. Nous attendions la lumière, et voici les ténèbres. Nous attendions la splendeur, et nous marchons dans l'obscurité. Nous attendions la délivrance, et elle s'est éloignée de nous, car nos iniquités se sont multipliées devant toi, et chacun de nos péchés a témoigné contre nous, car nos rébellions sont avec nous. Et nous connaissons nos iniquités qui sont de pécher et de mentir contre l'Éternel, de nous détourner de notre Dieu, de concevoir et de méditer dans notre cœur des paroles de mensonge. Et c'est pourquoi la justice s'est tenue loin, mais la rédemption, elle viendra. Elle viendra vers ceux qui se convertiront de leurs péchés. Et l'on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire, oui, sa gloire depuis le soleil levant, car l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit Saint de l'Éternel lèvera l'étendard contre lui. Les nations marcheront à la lumière, ô Éternel, et les rois à la splendeur qui se lèvera sur toi. L'Éternel sera pour nous une lumière perpétuelle. Et les jours de notre deuil seront terminés. Béni soit donc l'Éternel notre Dieu. Amen. Et maintenant, chers amis, j'aimerais vous mettre quelques chants, on peut bien dire, d'un très lointain passé. Figurez-vous, 1962. C'est drôlement loin. Et en ce temps-là, bien sûr, il n'y avait pas de CD. J'avais fait ces enregistrements avec un enregistreur à bande qui s'appelait le Revox. Eh bien, je vais essayer de vous mettre quelques chants de ce temps très lointain.